Vous aviez deviné que vous étiez sur Radio Libertaire. Eh bien, il est 10h08. C'est vrai que l'émission précédente ne s'en va qu'à 10h05, 10h04. Eh bien, l'émission que vous allez suivre à partir de 10h30, ce sera Chronique Hebdo. Et aujourd'hui, Chronique Hebdo, comme vous l'avez lu dans Le Monde Libertaire, bien sûr, hein, je vous rappelle que vous êtes sur 89.4, la voix sans Dieu, 100 mètres de la Fédération anarchiste, et que Radio Libertaire est l'organe médiatique radiophonique de la Fédération anarchiste. Comme vous l'avez lu sur Le Monde Libertaire, comme certains auditeurs ou certaines auditrices nous en ont parlé, nous ont même fait un petit mot, eh bien, nous recevons un libraire, un petit libraire de la rue Bréa, petit parce que sa boutique est petite, mais grand par les soins qu'il apporte à son travail sur le livre et sur sa distribution, un libraire, Émile Bramy, qui va nous parler de sa passion pour Louis-Ferdinand Céline. Alors avant de vous laisser en compagnie de Herbie Hancock, et puis d'attendre, comme il est 10h09, d'attendre Gérard pour l'émission avec Émile Bramy, je vais vous lire un petit texte qui nous a été communiqué par une auditrice de Chronique Hebdo, par une lectrice du Monde Libertaire, et puis par quelqu'un aussi qui a une passion pour Louis Ferdinand. Alors voilà le petit texte en question. Nom de Dieu, de nom de Dieu, on renifle que ça va rouscailler de l'autre côté de la boîte à dévidoir, celle dans laquelle on cause, parce qu'ils sont nombreux qui peuvent pas le piffer, le Céline. Plus question qu'il s'embue d'un seul petit œil sur cette vache charogne, sembler qu'ils sont au fond de leur substance. Basta, au placard, au rancard, définitif. Il avait plongé dans le fumier, l'ordure, la pourriture, et évidemment, on a bourré sur ça. Nous, il y a longtemps que ça fermentait dans nos bobèches, on n'avait pas le même affût. On pouvait faire une émission jactée sur lui, sur Ferdinand. Il nous avait tant fait marrer dans ses bouquins, rapport à son enfance, mort à crédit. Il nous a tant précipité au cerveau par ses analyses incisées, qu'on pouvait pas le laisser toujours à la cave. C'est pas pour racheter son vomi, sa haine, son cri, peau de balle, balle peau. Là où il est, qu'est-ce que ça peut lui fiche? Mais son style, son littéraire, parlons-en, d'auteur, il dédommage les damnés. Son style, c'est la revanche du petit, de la rue sur le grandiloquent. Ses portraits de quidam, c'était du théâtre vivant. Il les trace à l'incisif, ces hommes troubles, dégueulasses, qui s'arrangent pour élucider tous les contrôles. L'homme n'a qu'un tyran, c'est lui-même, dit Ferdinand. Là, il est expert, lorsqu'il va vers ses inéluctables amoindrissements.
Storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children
try to love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.
D'un libraire parisien qui s'est passionné pour Louis-Ferdinand Céline et qui a une connaissance extrêmement large, extrêmement précise et la plus passionnante possible, nous l'espérons. Et c'est pour cela que nous l'avons invité. Alors évidemment, d'habitude, Chronique Hebdo, c'est une émission de chronique de l'actualité, de commentaires sur l'actualité, avec la vision que nous espérons la plus anarchiste possible. Aujourd'hui, eh bien, on va effectivement, peut-être à l'occasion de des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline, de ses écrits en général, on aura peut-être l'occasion de montrer à quel point Il avait une haine farouche pour la guerre. Et c'est bien la guerre dont il s'agit dans l'actualité, avec ces soldats français qui s'en vont en Afghanistan, avec la guerre sportive, comme le dirait George Orwell, qui s'organise entre Pékin et l'ensemble des pays de la planète, des États, évidemment. Et donc, c'est peut-être le point sur lequel, dans l'actualité, il y en a bien d'autres, bien évidemment, le point sur lequel on pourrait rapprocher la pensée de Louis-Ferdinand Céline contre la guerre avec évidemment la pensée que nous avons nous aujourd'hui également contre toutes les formes de la guerre. Je pensais aussi dans l'actualité à, si vous lisez le Canard enchaîné, vous verrez un papier sur l'utilisation prévue par les commandements militaires de l'OTAN et d'autres pays, puisqu'il y a une réunion aujourd'hui à Bucarest de cette organisation criminelle qui s'appelle l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dans lequel réunion dans laquelle on va parler de la meilleure façon de tuer les gens, puisqu'il s'agit maintenant de faire des bombes atomiques, vous entendez bien, de petite portée, hein, c'est-à-dire qu'au fond, on pourra détruire une ville, un village, sans pour autant détruire les palais royaux ou les palais des États qui auront déclenché la guerre. Alors donc, ce thème de la guerre, qui est tout à fait d'actualité, hein, la guerre sportive, comme dirait Orwell, la guerre tout court, comme le disent les commentateurs aujourd'hui à propos de l'OTAN, eh bien, c'est contre la guerre que se battait à l'époque Céline. Et je vais laisser Émile Bramy, peut-être que je lui posais une question au début, mais pourquoi il s'est intéressé spécialement à Louis-Ferdinand Céline ?
Alors, c'est assez. Pour moi, Céline, ça a été une rencontre, et assez curieusement, une rencontre dans le milieu anarchiste. Donc, je traînais un petit peu en banlieue autour de certaines personnes. Et puis, j'étais très ami avec quelqu'un qui était un Espagnol, qui avait fait la guerre d'Espagne, enfin, etc. Et un jour, c'était une espèce d'ouvrier autodidacte, vous savez, cette espèce de personnage très truculent, très en couleur, qui a un petit peu disparu. Et un jour, on était amis dans la détestation de Sartre, que j'ai toujours trouvé être un écrivain exécrable et un politique
politicien.
Très médiocre, on va dire. Voilà. Et donc, un jour, il me tend quelques feuillets René Hauté et il me dit, tu lis ça, ça va t'intéresser. Et c'était à l'agité du bocal de Céline, c'est-à-dire le pamphlet qu'il a écrit contre Sartre, lorsque Sartre l'a accusé d'avoir été payé par les Allemands. Bon, je lis ça. Alors évidemment, ça me ferait très plaisir parce que Sartre se prend une déculottée formidable. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est le fait que je découvre une forme d'écriture à ce moment-là qui est absolument pour moi d'abord incroyable. J'imaginais pas qu'on puisse écrire de la sorte. Et puis surtout, qui me bouleverse totalement. Bon. À ce moment-là, on est en 1967. C'est-à-dire que Céline est absolument dans le trou. On a publié en 65, 63 et 65 les deux cahiers de Lerne, mais ça, je n'en ai aucune connaissance. Je sais absolument pas qui c'est. Et d'ailleurs, quand on me tend ces papiers, je lis Céline à l'ajouter du bocal. Au début, je crois que c'est une femme. Bon. Très vite, évidemment, je corrige mon opinion. Et à ce moment-là, pour moi, c'est tellement extraordinaire que je me mets à chercher des livres de cet écrivain. Alors, je trouve Voyage au bout de la nuit, je trouve Mort à crédit, et c'est tout. En librairie. Donc, du coup, je suis obligé de passer par l'autre circuit, qui est le circuit des bouquinistes, des libraires d'anciens, que je connaissais absolument pas. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ce qui m'a conduit à faire ce métier. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis intéressé à la librairie d'anciens parce que je cherchais des textes rares, des choses qu'on ne trouvait pas sur Céline. Bon. Et donc, pendant à peu près 2 ans, j'accumule les choses et je sais rien de Céline. Je sais pas qui c'est parce qu'on trouve pas de biographie. Je sais pas. Je sais vaguement qu'il a été médecin. Je sais vaguement. Bon. Mais je sais absolument rien de son, entre autres, de ce qu'il a écrit pendant la guerre. Bon, avant la guerre, et les pamphlets antisémites. Puis un jour, sur les quais, je tombe sur les pamphlets. Et là, évidemment, ça me pose un énorme problème, parce que si je ne suis pas du tout religieux, je suis né juif. Bon, et donc ça me pose... j'ai dit dans le livre que j'écris sur Céline, pour moi, c'est un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire, je marche avec un caillou dans la chaussure d'aimer un écrivain qui est antisémite, et évidemment... de ne pas l'excuser de l'être. On en reparlera peut-être plus longuement, mais je suis certainement pas là pour excuser l'antisémitisme de Céline. Après, on entrera dans les détails. Et donc, lorsque je lis Bagatelle, que je trouve sur les quais, je me pose la question. C'est-à-dire, est-ce que je dois continuer à aimer cet écrivain ou pas? Est-ce que je peux continuer? Et en fait, je suis bien obligé de constater, j'emploie une formule un peu bizarre, c'est que le mal était fait. C'est-à-dire que je ne pouvais plus me passer de cet auteur. Donc,
oui, tu étais victime d'une addiction comme
absolument,
on dit aujourd'hui.
Absolument, parce que alors c'est très simple, c'est que Céline est quelqu'un, de mon point de vue, qui exprime presque parfaitement ma vision du monde, c'est-à-dire... un grand pessimisme gay. Voilà. C'est-à-dire ne pas être dupe, mais en même temps s'amuser d'à peu près tout. Que rien n'est vraiment très grave, on peut rire d'à peu près tout. Donc, et qui en même temps l'exprime dans des termes, moi qui suis passionné de littérature par ailleurs, qui me sont à jamais inaccessibles. C'est-à-dire que je sais que, j'écris moi-même, j'écris quelques romans et tout, je sais que je suis... je suis une crotte au pied d'une montagne, si on veut me comparer à Céline.
Faut pas être aussi modeste, chacun à sa façon.
C'est-à-dire qu'on est, d'un côté, on est dans une sorte de génie de la littérature, et de l'autre, on est dans un petit besogneux. Bon, voilà. Et c'est pas de la modestie, c'est la réalité. Et donc, je peux pas me passer de Céline. Je suis effectivement attaché à cet écrivain. Donc, je peux même dire que par ailleurs, il a, d'une certaine manière, eu des répercussions sur ma vie, puisque je suis devenu libraire d'anciens, puisque j'ai écrit des livres sur lui, puisque c'est un écrivain avec qui je vis. Par exemple, je dois en être à ma 15e, 16e relecture de Mort à crédit,
Émile Brami, on va préciser, puisque dans le monde libertaire de ce jour, donc vous trouvez dans les kiosques, et puis aussi à Publico, 145 rue Amelot, on a annoncé donc l'émission, et en particulier, on précise que ta présence... à partir de deux DVD qui sont sortis il y a quelques mois aux éditions Montparnasse, deux DVD dont le titre est Céline Vivant. Et ces deux DVD dedans, donc il y a des entretiens filmés. Alors c'est assez intéressant, on va voir ça, on va en parler évidemment. Il y a dessus un petit livret de présentation donc que tu as réalisé. Alors on abordera ce matin justement le d'écrire, tout du moins, d'essayer d'approcher pourquoi ce titre, Céline Vivant, et en particulier, quelle est la force particulière, j'ai trouvé, des images et des entretiens, de revoir Céline, justement, dans ces deux DVD. Aussi, pour te présenter, puisque tu as commencé, tu as parlé de la librairie, donc, tu avais... à Paris, on dira peut-être tout à l'heure, évidemment, on l'abordera un petit peu la spécificité de cette librairie. Et puis aussi, puisque tu l'as dit, une biographie, alors on pourrait dire une biographie à rebours du temps, sur Céline, avec sous-titré « Je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple ». Et ça a été publié aux éditions Écriture. Aussi, ton travail, tu en as un petit peu parlé d'écrivain, et peut-être on parlera tout à l'heure deux ouvrages, un sur l'art brut, intitulé Art brut, on dira peut-être quelques mots par rapport à cet ouvrage. Un des derniers qui a été publié, tu as eu le prix, je crois, Méditerranée, Le manteau de la Vierge, alors c'est un titre aussi, pourquoi? Et puis aussi, après celui-là, tu m'as dit un qui vient de sortir il y a une quinzaine de jours, avec beaucoup, je pense, le titre de l'humour sur la poésie.
Voilà, le titre c'est Amis de la poésie, et c'est un livre qui raconte en fait une sorte de voyage complètement délirant que j'ai fait lors d'un congrès de, entre guillemets, poètes, parce que ces gens-là étaient tous sauf des poètes, ouais. Et avec une extraordinaire prétention Enfin bon, pour en dire deux mots aussi. Aussi
voilà.
C'était pas Voyage au bout de la nuit ou alors pas dans le même
sens? Non, c'était Voyage au bout du ridicule.
Voilà. Alors aussi pour l'émission, pour les auditeurs, puisqu'on a donc ce matin consacré l'ensemble de cette émission à Louis-Ferdinand Céline, au cours de cette émission, bah, ne quittez pas, essayez d'aller jusqu'au bout parce qu'on aura un aperçu de la voix hein, de Céline aussi. Il définirait les serrettes de dire, de parler de, vous savez, le fameux le style, hein, ce que c'est que l'importance du style. Alors évidemment, c'est un entretien, c'est même pas un entretien puisque c'était, il n'y a pas de d'interlocuteur, mais ça durera quelques minutes, hein, ça durera à peu près un quart d'heure, mais on en passera quelques minutes pour essayer de dialoguer, tout du moins avec toi, le plus longtemps possible. Et puis après aussi un extrait de Céline, une chanson, hein, ça c'est un petit bijou, enfin c'est assez rare, je pense qu'on n'entend pas ça tellement sur l'ensemble évidemment des radios. Eh bien ça s'appelle le Nœud coulant, hein, Nœud coulant interprété par Céline, chanté par Céline, et peut-être si on a le temps un extrait, alors on l'a dit tout à l'heure, deux ouvrages évidemment fondamentaux, Le Voyage au bout de la nuit et puis Mort à crédit, et Mort à crédit un extrait, alors lu par Arletty, c'est un passage de Mort à crédit sur le certificat d'études. Alors voilà, alors, et justement puisque j'ai dit ça éclairerait, puisqu'on parle des deux DVD du même, en même temps puisque c'est une émission de radio, si on n'a pas les images, on aura au moins la musique et les paroles et le son. Et puis pour présenter, je trouvais que dans ces deux DVD, le lire simplement quelques lignes de la présentation, comme ça qui nous mettront de plein pied, on a déjà commencé, dans l'univers de Louis-Ferdinand Céline. Tu écris « Céline, c'est d'abord une langue unique, composée d'improbables télescopages de mots, d'acrobatie grammaticale, de néologisme époustouflant, un style en permanente invention qui procure un plaisir de lecture singulier et exceptionnel. Personne n'écrivait de la sorte avant lui. Personne ne le fera après. Toutes les tentatives d'imitation ont abouti à des résultats pitoyables ou ridicules. Et cette petite musique se garde bien de tourner à vide, de se limiter à la vanité sotte de la virtuosité. Mise au service de l'émotion afin de toucher au nerf le lecteur, elle permet à Céline de corriger le vieil adage biblique « au début était le verbe, en au début était l'émotion ». Mais le plus méconnu est sans doute l'humour très noir, très drôle qui traverse tous ses textes. Céline peut, en racontant les pires horreurs, avec des mots qui n'appartiennent qu'à lui, faire à la fois pleurer d'émotion et hurler de rire. La découverte d'un pareil écrivain est tellement bouleversante, écoutez bien, qu'on ne peut qu'envier ceux qui n'auraient encore jamais ouvert l'un de ses livres. Voilà. Alors, en particulier, ouvert l'un de ses livres, je pense que on va, à travers cette présentation, parler du style, mais au-delà du style, du voyage, évidemment, moi j'avais envie, la force du voyage au bout de la nuit, et puis aussi le Mort à crédit. C'est une façon d'aborder le style, mais c'est une façon, à mon avis, aussi d'aborder les idées.
Bon. Alors, moi, je fais toujours une distinction entre Le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Pour moi, le premier livre de Céline en tant que grand styliste, ça n'est pas Le Voyage, c'est Mort à crédit, pour des raisons que je peux expliquer très rapidement. Dans Le Voyage au bout de la nuit, c'est le livre d'un premier écrivain. Et souvent, dans un premier livre, l'écrivain veut mettre beaucoup de choses, trop parfois. Et surtout, dans Le Voyage, Céline n'a pas encore fait sa révolution. C'est-à-dire, si on lit soigneusement Le Voyage, il y a encore des phrases extrêmement classiques, des imparfaits du subjonctif. Il y a beaucoup de phrases qui sont écrites à l'avance pour être très vite relevées. Il y a aussi une certaine préciosité qu'on ne trouvera plus du tout par la suite. Le vrai premier livre de Céline styliste, à mes yeux, hein, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis là, c'est Mort à crédit. Parce que là, Céline se libère tout à fait de toutes les contraintes, de la grammaire, etc., pour véritablement réinventer quelque chose. Et donc, c'est pour moi, le premier livre est sans doute le chef-d'œuvre de Céline, enfin, en tout cas à mes yeux, c'est Mort à crédit.
Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, moi aussi c'est Mort à crédit que je trouve le plus génial. Et dans Mort à crédit, justement, puisqu'on en parle, est-ce que y a un humour extraordinaire quand il raconte son enfance et ses relations avec ses parents, mais alors on a l'impression que partant d'une d'une réalité qu'il a vécue, parce que je pense que c'est aussi, partant de cette réalité, il délire un peu complètement, c'est-à-dire qu'il y a, des aventures qu'il raconte, le voyage à Londres, enfin des choses comme ça, qui semblent tellement en dehors de la réalité qu'on se dit, eh ben, il y a un mélange.
Alors, Céline a dit une phrase qui est tout à fait... qui explique tout à fait son œuvre. Il a dit, il faut noircir et se noircir. C'est-à-dire que quand on lit Céline, il y a une chose qui est certaine, quand on connaît un petit peu sa biographie, c'est que tout ce qu'il écrit part toujours d'un fond de réalité. Il y a toujours un point de départ, ou bien pour un personnage, il y a toujours un modèle. Bon. Et à partir de ce fond de réalité, qui est souvent très très lointain dans les livres, eh bien, il part effectivement dans ce qu'il appelle ses délires. Et là, on peut aller jusqu'à des extrémités tout à fait extraordinaires. Ce qui est intéressant chez Céline, c'est la manière dont il travestit la réalité. Par exemple, lorsqu'on lit à crédit, on a l'impression d'une enfance abominable entre un père complètement fou, une mère écrasée et infirme.
Il y a quand même l'oncle qui le sauve un peu.
Oui, il y a un oncle qui le sauve. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que dans la réalité, Céline appartenait à une famille de la bonne bourgeoisie. Ses parents ne sont pas du tout pauvres, contrairement à ce qu'il raconte. Pour donner un simple exemple, sa grand-mère, celle dont il a choisi de prendre le prénom comme pseudonyme, Céline, eh bien, possédait rue de Provence, qui à l'époque était l'équivalent du faubourg Saint-Honoré d'aujourd'hui, un très grand magasin d'antiquités. C'est comme si on disait à présent qu'un très grand antiquaire parisien est pauvre. Bon, c'est absolument absurde, voilà. Donc, il y a cette espèce de manière d'aller toujours vers plus noir, toujours vers plus sombre, toujours vers plus pessimiste. Et en même temps, effectivement, parallèlement à ça, il y a toujours chez Céline un clin d'œil, un éclat de rire qui vient corriger ça.
C'est pour ça que c'est plein d'humour.
C'est toujours plein d'humour. Et j'ai voulu insister dans la petite présentation qu'on a lue tout à l'heure sur justement le fait que la vision qu'on a de cet écrivain, c'est un écrivain noir. Pas du tout. C'est un écrivain extrêmement amusant. C'est quelqu'un qui, me fait hurler de rire, quoi. Et tous les gens qui aiment Céline aiment aussi cette partie-là. Et puis, il y a la volonté, vraiment, de toucher le lecteur. C'est-à-dire d'aller chercher l'émotion. Quelque chose qui échappe à la raison, qui est du domaine un peu de l'indicible, et de fabriquer cette émotion à partir d'un style qui est un style absolument unique. Parce que ça, c'est la chose la plus importante de Céline. Si on résume ces livres à leur sujet, c'est bien peu de choses. Un livre comme Mort à crédit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'enfance d'un petit bourgeois parisien dans un passage. Bon, il y a dû y en avoir des milliers, des dizaines de milliers d'enfance équivalentes. Bon, lui arrive à sublimer ça par l'écriture. Et on sait bien que la littérature, c'est ça. C'est pas ce que raconte l'écrivain, c'est comment il le raconte, avec quels moyens il le raconte. Et c'est ça qui touche. C'est pas de... Sinon, on tombe dans les écrivains à la mode d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui vont vous raconter des histoires. Bon, mais les histoires...
Oui, sans se préoccuper, en effet, de la façon dont on aborde une réalité, une description.
Céline disait, des histoires et des idées, il y en a plein les journaux.
Voilà. Et par rapport, alors je voulais citer, puisque on a évoqué ton bouquin, hein, Céline, c'est-à-dire une biographie à rebours du temps, puisqu'on parlait du voyage et de Mort à crédit, quelqu'un qu'on aime bien, qu'on connaît, qui est venu souvent dans cette émission, c'est Ciné. Oui. Hein, puisque dans cet ouvrage, tu as fait témoigner entre guillemets, hein, tout du moins dire des gens qui ont dit, commenter sur l'œuvre de Céline. Oui. Et Céline, pour Ciné, ça a été quelque chose d'assez formidable. Alors je voulais lire ces quelques lignes, puisqu'on parlait justement du voyage et en même temps de Mort à crédit, et dire peut-être que, bien au-delà peut-être que de ce style, je disais, c'était aussi l'expression toucher au nerf et à l'émotion, et qu'on verra tout à l'heure, peut-être qu'à partir du certificat d'études, l'extrait de Mort à crédit, comment il dit des choses importantes, le fait de passer dans la vie, et je crois que là, il y a une émotion Il y a aussi, il touche au nerf, mais aussi il y a quand même une idée assez, assez originale. Il me semble, c'est pas simplement de dire le certificat d'études, mais c'est de voir déjà une critique féroce, féroce de l'école, féroce aussi de cet examen du certificat d'études et comment il l'a aussi exprimé. L'éducation nationale avait porté une responsabilité dans le formatage, dans la façon de former peut-être des petits conscrits déjà prêts pour aller après à la guerre, mais des petits conscrits pour aller au travail forcé, organisé par le système capitaliste. Alors peut-être, Émile, on en parlera après, je vais juste lire ce que dit Siné. 14 ans, en 1942, le dessinateur Siné est issu d'un milieu très modeste, tu le dis, où on ne lit pas. Après l'avoir prévenu contre les pamphlets antisémites, son professeur de français lui conseille le voyage au bout de la nuit. Alors, il dit « Je fonçais acheter le bouquin et le dévorais aussitôt avec une jubilation orgastique. Mon exultation à son comble, je relisais plusieurs fois les mêmes pages malgré une envie folle de passer aux suivantes. J'étais fébrile, subjugué, envoûté. Bardamu me sciait le cul. Ferdinand taillait à tous des costards pure haine. » Des costards pure haine. Il secouait tellement fort le cocotier que tous les clichés dégringolaient. Il foutait le feu au poncif, chiait dans la colle et s'essuyait au bégonia. Je n'avais jamais rêvé un tel jeu de massacre. N'oublions pas, pour Siné, son œuvre, jeu de massacre aussi. Il tirait dans le tas à bout portant, faisant voler les mots en éclats et torturant la ponctuation pour lui apprendre à ne pas respecter les convenances. Le coup de foudre fut violent et immédiat. Après la lecture de Mort à crédit qui m'envoya presque plus haut que le voyage, j'étais pulvérisé, en morceaux, à ramasser à la cuillère. Ce mec, c'était de la dynamite et il vous enfonçait des suppositoires à la nitroglycérine dans le cul. Voilà, je tenais à lire pour situer quand même la réaction de Céline. Et alors donc, tu me disais par rapport à la remarque sur
le certificat. Lorsque, en 41, Céline publie Les Beaux Draps, donc un de ses pamphlets antisémites, il accorde une place très très importante à ce que doit être l'école. Et entre autres, il insiste beaucoup sur le fait que l'école doit d'abord éveiller l'enfant à l'art, à la capacité de s'exprimer d'une manière artistique. Et il dit... en gros, bon, apprendre la grammaire, la conjugaison, les mathématiques, ça arrivera bien assez tôt, on pourra le faire. Mais ce qu'il faut, c'est éveiller les consciences artistiques de l'enfant, c'est-à-dire lui apprendre à danser, à chanter, à peindre. Et en cela, il est le précurseur de nombre de pédagogues qui, plus tard, dans les années 50, ont essayé justement d'approcher l'éducation des enfants de cette manière-là. Alors qu'à l'époque, on est encore dans une école qui en régimente, où il ne faut pas qu'une tête ne dépasse. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement révolutionnaire pour l'époque. C'est pour ça que le cas de Céline est aussi infiniment compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire à un connard antisémite. Voilà, c'est pas ça. On aimerait bien pouvoir le réduire à ça. Ce serait bien de dire, voilà...
Un peu trop facile.
C'est un peu trop facile.
Oui, et puis aussi, je pense... Ouais, mais Jacques,
souvent
ouais.
Qu'on a encore plus maintenant, parce que j'ai l'impression que tout de même, pendant ces 20, 30, 40 dernières années, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu cette hostilité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on reparle un peu trop de Céline? Mais il n'y avait pas cette hostilité. Moi, je me dis, est-ce que ça n'est pas le langage binaire qui est devenu la règle informatique d'aujourd'hui? C'est-à-dire, ou vous êtes 0, ou vous êtes 1, mais vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Ou vous êtes noir, ou vous êtes blanc, mais vous ne pouvez pas être gris. Donc, c'est cette ambiguïté qui fait que dès qu'on a trouvé au fond la faille d'un individu, là, il se trouve que c'est Céline et ses pamphlets antisémites, alors on le jette.
Alors, dans ce que tu dis, il y a deux choses, à mon avis. Il y a le fait de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux, être dans l'actualité comme Céline aujourd'hui ou être totalement enterré comme il l'a été, c'est-à-dire inexistant. Voilà. Moi, je pense que pour un écrivain de cette taille, il vaut mieux ne pas être enterré. Bon. Alors ensuite, quand
Mais tu crois qu'il était vraiment inexistant? Parce que moi, je me rappelle avoir acheté dans les années 50-60, dans une petite librairie d'une rue dont j'ai oublié le nom, mais qui est tout près de l'Odéon, Bagatelle pour un massacre.
Alors, je crois savoir de quel livre il s'agit, parce que c'est une librairie que j'ai beaucoup fréquentée à l'époque. C'est rue Saint-Sulpice, non?
Oui, oui, voilà. C'est ça.
Voilà,
c'est
ça, oui. C'était chez quelqu'un qui était un grand spécialiste de Céline et que j'ai beaucoup fréquenté dans ces mêmes années. Et quand je parle d'intérêt, je veux dire auprès d'un public important.
Ah oui.
Il y a toujours eu un courant de gens qui se reconnaissaient dans Céline et qui l'ont lu. Bon, aujourd'hui, il faut savoir par exemple que Céline est l'écrivain français sur lequel il y a le plus de travaux universitaires partout dans le monde. Partout. C'est-à-dire aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'en Australie. Bon. Donc c'est vraiment l'écrivain français le plus étudié, celui vers lequel le plus d'universitaires se tournent. Donc c'est devenu, je dirais qu'il a retrouvé la place qui était légitimement la sienne. Donc moi je préfère qu'un écrivain de cette taille soit lu par le plus grand nombre que être le fétiche de quelques dizaines ou centaines de personnes, comme ça a été le cas. Alors maintenant, pour revenir à l'attitude binaire, là je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde sans nuance. Moi je constate que par exemple, quand je dis j'aime Céline, la première chose ou la première question qu'on me pose...
T'es antisémite.
Antisémite et fasciste, oui. Voilà. Alors je suis.
Il y a ça.
Je suis ni l'un ni l'autre, je crois. Voilà.
Oui. Alors, par rapport justement, là aussi, on avait dit tout à l'heure, il faut peut-être pour les pamphlets, puis après on reviendra, si tu le veux bien, à l'ensemble de. Ça fait partie évidemment de l'œuvre totalement, mais revenir aux deux premiers. Et puis moi, l'idée que j'avais aussi pour les deux premiers, je me dis le personnage infréquentable, mais aussi il faut voir les thèmes quand même développés, parce que un des thèmes quand même du voyage, c'est de dire que l'homme, hein, il faut le rappeler, qu'est-ce qu'il a envie, l'homme, pour Céline, c'est de bousiller, c'est de détruire, c'est de tuer. Et la guerre de 14-18, voilà, pour le voyage au bout de la nuit, la guerre de 14-18, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, hein, et alors il y a un refus. Il y a une colère, une révolte contre la guerre. Et là aussi, je pense que pour les pamphlets, en particulier quand on entend Bagatelle pour un massacre, et tu le précises, ou l'école des cadavres, on veut dire Bagatelle pour un massacre de juifs, ou l'école des cadavres de juifs, tu le précises aussi par rapport à l'histoire, et l'intérêt que ça peut avoir, c'est de resituer. On en parlait tout à l'heure. Essayez, parce qu'on voit avec l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, mais avec le rétroviseur, et d'essayer de resituer l'époque où Céline, justement, a écrit ces deux pamphlets, et de dire qu'avant tout, il les écrit parce qu'il ne veut pas, le Bagatelle pour un massacre, que la guerre se produise, et il fait tout, justement, alors il le fait peut-être pas bien, il le fait peut-être à sa façon, qui est éminemment critiquable, mais il le fait pour dire, il ne faut absolument que éviter la guerre.
Alors, il faut quand même redonner des dates, hein. Bagatelle pour un massacre paraît à la toute fin de 1937 et il est mis en librairie en 1938. Et l'école des cadavres, c'est quelques mois après. Alors il faut déjà différencier les deux bouquins. Le premier, c'est vraiment un cri contre la guerre, bon, avec les obsessions de Céline. C'est-à-dire que Céline est persuadée que ce sont les Juifs qui veulent la guerre. Et en gros, son argumentaire est le suivant, c'est de dire... moi, j'ai rien contre Hitler. Il aime pas les Juifs, je les aime pas non plus. Et je vois vraiment pas pourquoi je vais aller me battre dans une guerre que veulent les Juifs contre l'Allemagne. Bon, ça c'est très éminemment discutable, effectivement. Mais l'idée de Céline, l'idée principale lorsqu'il écrit Bagatelle, c'est qu'il craint la guerre et qu'il est persuadé que la France ne résistera pas à une seconde saignée comme celle de 1914. C'est-à-dire qu'il pense que ce qu'il appelle l'ethnie française, lui, va disparaître dans cette guerre. Bon. Alors, à plus forte raison, si cette guerre, comme il l'imagine, est voulue par les Juifs. Et lorsque j'ai écrit le livre auquel tu faisais allusion, je me suis beaucoup intéressé à l'accueil dans la presse de Bagatelle pour un massacre. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate déjà qu'il y a des gens qui sont farouchement pour et des gens qui sont farouchement contre. Et ces gens-là sont aux extrêmes. C'est-à-dire, c'est l'extrême droite qui est farouchement pour et qui est ravie qu'un écrivain de la taille de Céline la rejoigne. Et naturellement, l'extrême gauche est farouchement contre. Et entre les deux, quelle est la question qui se pose ? La question qui se pose est une question d'ordre purement stylistique. Est-ce que Céline a écrit un bon livre ? C'est-à-dire qu'en 1938, écrire un livre antisémite n'est pas choquant. Ça nous choque aujourd'hui. Malheureusement, oui, à l'époque, ça n'est pas choquant. Alors, j'ai continué donc mon petit travail. Il faut savoir qu'en 38, il y a à Paris 4 officines dont le seul but, dont 2 sont payées, l'une par les Italiens et l'autre par les Allemands, dont le seul but est de produire de la littérature antisémite. Des brochures, de rééditer les protocoles, enfin des choses comme ça. Voilà. Quand on interroge, quand on regarde par exemple ce qu'écrivent la plupart des écrivains, tous ont commis d'une manière ou d'une autre des phrases, des textes qui sont des textes antisémites. Tous. Bon. Par exemple, son nom va m'échapper, mais quand on demande à un écrivain pourquoi est-ce qu'il écrit, dans une enquête, il répond « J'écris parce que je ne suis ni nègre ni juif ». Voilà, c'est le moment. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, quand on lit Bagatelle pour un massacre, évidemment, on le lit rétrospectivement. Et on le lit en sachant ce qui s'est passé, c'est-à-dire la terrible destruction des Juifs par Hitler pendant la guerre. Bon, évidemment, on a un éclairage qui n'est pas celui de l'époque. Mais pour prendre juste un exemple, lorsque sort Bagatelle pour un massacre, il y a un article dans le Canard enchaîné qu'on peut soupçonner ni de fascisme, qui d'ailleurs à l'époque est beaucoup plus anarchiste du point de vue des idées qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on dit, c'est vrai ?
Oui.
et on dit que, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, je cite à peu près de mémoire, c'est un homme qui monte à la barricade et qui lance des pavés dans une écriture magnifique. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que écrire quelque chose d'antisémite, finalement, c'est relativement banal.
Voilà. Voilà, écoute, je vais préciser, puisque tu évoquais cet auteur, c'est Giraudoux.
C'est Giraudoux, voilà.
Giraudoux, d'accord. Et puis, alors, juste citer exactement les propos du Canard enchaîné. Voilà. C'est précis, 21 janvier 1938, voilà. Et voici de la belle haine, bien nette, bien propre, de la bonne violence à manches relevées, à bras raccourcis, du pavé levé à plein biceps, c'est une barricade individuelle, avec au sommet un homme libre qui gueule magnifiquement. Voilà. Donc, c'est important de lire
pas
ça.
Pas un mot sur l'antisémitisme. Oui. Rien. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui monte au créneau.
Oui. Voilà. Donc voilà de préciser. Alors écoute, Émile Bramy ou Jacques, je pense, on ferait peut-être, on avait dit tout à l'heure, écoutez alors la voix de Céline sur le style, on reviendra, et puis la chanson, essayez de Nos Couleurs, évidemment, d'écouter Louis Ferdinand Céline. Alors pour les auditeurs, si vous voulez évidemment nous appeler pendant ces parties musicales, aussi plus que musicales, mais l'intervention de Louis Ferdinand Céline, eh bien le numéro de Radio Libertaire dans l'émission Chronique Hebdo, 01 43 71 89 40.
Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense. Oui, et personne ne m'empêchera de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher. Il faut donc être ménagé de ces mots. Je parle tout de suite de ce que je sais et de ce que j'ai lu. Dans les mémoires de Georges Sand, on ne lit pas beaucoup Georges Sand, mais on lit encore un petit peu ses mémoires, et moi en particulier, je les ai lus. Il y a un chapitre remarquable où, étant jeune fille, elle allait au devant de la vie, et elle avait des idées de gauche, d'extrême gauche même pour l'époque. Et elle était accueillie, elle avait accès par sa naissance et par sa notoriété. On sait que c'était une arrière petite fille du prince de Saxe, et elle avait accès dans les grands salons. et en particulier dans ceux où se rassemblaient encore les membres de l'ancienne aristocratie, mais la vraie, celle qui existait encore, qui était sortie de la cour de Louis XVI, avec quel mal, et même de Louis XV. Et elle regardait ses membres de l'aristocratie, et là, elle est dans ses salons, avec grande épouvante, en les voyant, la manière dont ils gesticulaient, dont ils s'agitaient, dont ils s'offraient des petits fours, dont ils s'avançaient des chaises, les retiraient, cachaient leurs perruques entre les seins des dames, et puis ensuite les mettaient sous leur derrière, et puis faisaient mille grâces, mille petites chichis. Elle en était épouvantée de voir ces vieux d'une époque disparue faire tant de grimaces. Eh bien, personnellement, je trouve que ce chapitre est essentiel. Je crois que Proust même s'en est bien servi dans son histoire, dans ce fameux chapitre où il est question, où on voit les gens vieillir sur place. C'est un chapitre fameux, mais là, je crois que je ressens la précédée, c'est vraiment un très gros effort littéraire. Eh bien, j'ai la même impression quand je lis un livre. Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre, ben, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas, à l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour te dire, ben, je regarde les romans de mes contemporains, ben, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, eh ben, mon Dieu, c'est un temps où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, ben, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je trouve que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Ben, il lui reste pas grand-chose. Il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Ben, il raconte le monde, n'est-ce pas? Ce qu'il y voit. Et puis, enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien, bon. Mais enfin, quand il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Alors, question du style. Bon. Alors, le style, ben, le style, je le trouve, le style de tous ces trucs-là, sont dans le même ton que le Bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que les déclarations à la Chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent, peut-être, mais en tout cas, certainement pas émotif. Or, je les regarde comme les impressionnistes devaient regarder les peintres de leur époque, qui leur rendaient bien. Évidemment que l'impressionnisme, et quand il regardait une église d'Auvers par un peintre de l'époque, un bon peintre de l'époque, évidemment ce n'était pas du Van Gogh. Et lui, l'autre disait, mais c'est une horreur, c'est un malfaiteur, et il faut le tuer. Voilà exactement ce qu'il pensait. Et bien, il pense encore ça.
Catique à la putain, celle qui n'aime le matin, à l'aube rise crève le grain, ni mon cœur fidèle ni les roses. You profondis, yop tedium, à la grand vergue le petit homme, chacun goéland dans sa mature, à nous coulant, figure. Quand Katinka sera bossu, nous irons voir aux citadelles. À force de prêter son cul, la cloche trois fois gros comme elle. You profondis, yo tedium, à la grande vergue, le petit homme, chacun goéland dans sa monture, à nœud coulant, brave figure, c'est le qu'on branle chaque matin, pour faire lever tous les putains, grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande aux Dardanelles.
Il est saoul, mec, alors ça n'a aucune importance, oui, oui. Pas, il l'a fait comme il peut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, je vous embête un peu. Hein. Ouais.
Alors, vous avez entendu la voix de Céline, la voix de Louis et Ferdinand en train de parler de George Sand et de sa façon dont, enfin, la façon dont il interprétait la vision de cette écrivaine. Et puis ensuite, vous l'avez entendu chanter, alors superbe, avec une voix très profonde, très rocailleuse, et on a vraiment l'impression qu'il se fait lui-même un nœud coulant autour de la gorge.
Alors, une auditrice nous a appelé pour revenir peut-être justement, elle parlait de l'importance de l'émotion, alors revenir sur cette idée du style, et peut-être au travers de cette idée du style, rappeler quand même que dans des entretiens, Céline avait dit que depuis 3 siècles, dans la littérature, c'était la langue académique, c'était la langue royale, c'était la langue des princes, c'était la langue officielle, et qu'il fallait justement faire quelque chose. Et lui, il a essayé de mettre la langue parlée, puisque on avait dit tout à l'heure, avant était le verbe, on disait avant l'émotion, mais de mettre la langue, le langage parlé, c'est-à-dire l'émotion, sur le papier. Et ça, justement, la difficulté est considérable par rapport à ça, mais au-delà d'un effet de style, je pense que cette langue parlée, comme reprendre peut-être des formules sur le langage, comme je cite souvent Roland Barthes, en disant « la langue est fasciste », justement par rapport à Céline, et alors quand on les critique qu'on a pu lui formuler, je pense qu'il a essayé de dynamiter totalement cette langue convenue, et c'était une façon d'écrire de façon convenue, et lui a voulu dire par le langage parlé, justement, c'était une autre façon, peut-être pas seulement de parler, mais une autre façon de penser. Voilà.
Je suis assez d'accord là-dessus. En fait, Céline, lorsqu'il commence à écrire, considère que ce que tu appelles la langue des rois est une langue morte, surtout. C'est-à-dire qu'elle n'a plus les moyens d'exprimer un certain nombre d'émotions et surtout qu'elle n'est plus en adéquation avec l'époque. C'est-à-dire qu'on parle dans une société qui a subi les révolutions industrielles, des bouleversements extraordinaires. On parle avec une langue, donc un outil, qui est celle d'une civilisation qui a disparu au moment de la Révolution française. Bon. Donc il y a eu une révolution, je dirais, politique, il n'y a pas eu de révolution langagière. Voilà. Et lui va faire cette révolution-là. Alors il faut peut-être aussi expliquer pourquoi Céline choisit le langage parlé. Quand on regarde un petit peu l'archéologie de l'écriture de Céline, il a commencé par le théâtre. Voilà. Et il a écrit donc deux pièces. Une qui s'appelle L'Église, une autre qui s'appelait Périclès au début, et qui a été publiée sous le titre de Progrès. Et ces pièces, il faut le dire, sont très mauvaises. Bon. En fait, c'est quelqu'un qui échoue dans le théâtre, et le théâtre, c'est par définition la langue parlée. Et donc, cet échec au théâtre, il va le transposer dans la littérature. Et il va donc vouloir écrire comme on parle. Or, on sait bien que si on enregistre, par exemple, une conversation, c'est une succession de annonnements, de répétitions et tout. Et c'était extraordinairement difficile de donner, non pas cette impression de langue parlée. Et on sait, par exemple, que Céline était un travailleur acharné. On parle, par exemple, de 50 000 pages de brouillon pour l'écriture de Voyage au bout de la nuit. Le livre qu'on connaît le mieux de lui, c'est Féerien. Bon, on connaît 7 versions différentes de Féerien. Bon, et tout aussi élaborées. Bon, c'est quelqu'un qui savait à quel point arriver à cette impression de facilité apparente, c'était quelque chose d'extraordinairement difficile et qui nécessitait un labeur extraordinaire. C'est beaucoup plus facile d'écrire dans une langue classique que d'écrire dans la langue de Céline. Et je répète, Céline, c'est quelqu'un qui n'a pas d'héritier parce que c'est la définition même du génie. Le génie, c'est celui qui n'existait pas avant et qui n'existe pas après. C'est-à-dire, personne n'a fait ce qu'il a fait avant lui et personne ne le fait après. Simplement, ce qui est très très important chez Céline, c'est qu'il a une influence indirecte sur tout ce qui est écrit aujourd'hui dans le monde, pratiquement. Quand on prend tous les écrivains de la Beat Generation, tous, sans exception, se réclament de Céline.
Oui, tu me parlais de Kerouac, par
exemple. Oui, Kerouac.
Qui est venu, il y en a un qui est venu essayer de le voir, qui l'a vu.
Voir à Meudon. Oui, Kerouac a écrit un texte absolument extraordinaire sur Voyage au bout de la nuit. Miller, dans une lettre de 1934 adressée à Céline, reconnaît la dette qu'il a envers lui, que sa manière d'écrire a été totalement bouleversée après la lecture du Voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire, et bon, par exemple, tous les ans, il y a la fameuse rentrée littéraire. Bon, alors on interroge les nouveaux, etc. Et quasiment 1 sur 2, quand on lui parle de ses influences, cite Céline. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui imprègne le monde de l'écriture européenne. Et quand on prend, par exemple, un canard comme Libération, si on connaît un peu Céline, on constate que tous les jours, soit dans un titre, soit dans une expression, soit dans une formule, soit dans une phrase, il y a un emprunt à Céline. Tous les jours. Tous les jours. Bon. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est peut-être l'auteur le plus présent dans la littérature moderne par les apports qu'il a fait. Mais il est inimitable en même temps.
Alors, juste, essayer d'insister, en fait, tu le sais, sur cet aspect-là, quand on parle, tu dis, par rapport à Mort à crédit, où là, c'est l'aboutissement, mais il y a les derniers ouvrages, peut-être, les derniers.
Alors,
où il a essayé, mais juste, je voulais te dire, non seulement la langue, on pourrait dire la langue parlée, y arriver à l'émotion, il a dit aussi d'essayer de pénétrer dans le cerveau des individus, c'est pas rien, je pense qu'il y a un peu réussi. Et pourquoi? Parce que s'il touche l'important, je pense, du voyage ou de Mort à crédit, l'émotion, comme il dit, le nerf, ou tout du moins les neurones, il y a une transformation spirituelle, peut-être qu'il recherchait que le lecteur, d'un seul coup, il va, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour Ciné, ressentir un bouleversement. Et donc, plus au-delà du langage parlé, c'est une sorte de je dirais la réalité, la vie et la réalité, la vie surtout, qu'il arrive à faire passer justement dans son écriture.
Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui veut écrire sans intermédiaire. C'est-à-dire que lorsqu'on lit une littérature plus classique, vous avez un intermédiaire qui est celui de la forme, qui est celui de la grammaire, qui est celui de la manière d'écrire. Et ce que fait Céline, c'est qu'il saute cet intermédiaire en son but, c'est de parler directement à l'oreille de son lecteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous chuchote quelque chose à vous, personnellement. Et donc, je pense que c'est comme ça que Céline fabrique son émotion. Maintenant, pour revenir à la question que tu me posais au début, à savoir, peut-être pour moi, c'est pas mon livre préféré, mais le roman le plus abouti du point de vue de l'écriture de Céline, c'est certainement Nord. Bon, parce que c'est le livre qu'il écrit à la fin de sa vie, c'est celui où il y a qui est le dernier qu'il ait publié, c'est-à-dire dont il a contrôlé la publication, qu'il a corrigé. Enfin, bon.
Et Normance, non, c'était pas vrai.
Non, c'est avant.
C'est le dernier, oui.
Nord, c'est le dernier livre publié par Céline de son vivant en 1960. Voilà. Et donc, Nord est un aboutissement. C'est la fin. Il sait que vraisemblablement c'est le dernier livre qu'il publiera, et donc il y a une espèce de formidable majesté dans Nord. Mais en même temps, dans la littérature, il y a parfois des choses qui échappent. C'est-à-dire qu'il y a dans Mort à crédit une grâce absolument extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre, qui n'est pas réductible aux mots, et qui fait que c'est un livre hors du commun. Voilà. Mort à crédit n'est peut-être pas son meilleur livre techniquement, du point de vue du style et tout, mais c'est sans doute celui qui parle le plus. Voilà. Et son livre le plus abouti, alors du point de vue de la technique, du point de vue de l'écriture, du point de vue de l'évolution de son style aussi, c'est sans doute Nord, qui est d'ailleurs un livre très méconnu.
Voilà. Alors,
moi je l'avais lu, mais il y a très longtemps, parce qu'il se trouvait que, toujours dans ces années 60, j'avais une compagne qui était passionnée de Céline, et on a lu ensemble Nord, Normance, d'un château à l'autre. Enfin bon, mais quand tu dis c'est le plus abouti, Nord, est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas un peu moins de spontanéité, moins d'émotion peut-être?
Alors j'ai employé volontairement le mot de grâce. C'est-à-dire qu'il y a parfois des livres qui échappent à l'analyse. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, c'est une espèce de tout. On ne sait pas pourquoi ce livre-là, qui n'est pas forcément mieux écrit qu'un autre, dont l'histoire n'est pas forcément plus intéressante qu'un autre, celui-là fonctionne d'une manière particulière. Bon. Voilà. Donc je pense vraiment, enfin, pour moi, Mort à crédit est un livre qui a cette espèce de grâce. Voilà. Quelqu'un comme Pierre Michon, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, dit de Mort à crédit, il dit c'est un livre parfait. Voilà. Et je le suivrai à
la perfection. Alors là aussi, bon, puisqu'on évoque l'importance que ça a par rapport à l'écriture, alors revenir aussi sur des entretiens, puisqu'on est sur Radio Libertaire, enfin il faut le dire par rapport au milieu anarchiste, que dans des entretiens de Louis-Ferdinand Céline, la deuxième page ou troisième page du Voyage au bout de la nuit, il écrit une petite ligne avec son copain, il est en train de discussion, il dit « Tu l'as dit, Boufic, je suis anarchiste hein, ». Voilà. Et il le dit dans des entretiens par rapport, alors c'est son point de vue, hein, l'exprimer « Je suis anarchiste ». Et je pense qu'aussi, puisqu'on a parlé pour Céline, on a parlé de l'individualisme, hein, on a fait des références aussi à Stirner par rapport aux anarchistes, et puis on a parlé dans ces déclarations, en particulier ces entretiens, mais je dirais qu'au-delà du livre, il faut quand même rappeler que le voyage, on parle du style, mais les idées qu'il y a dedans, il s'en prend, alors féroce par rapport à la dénonciation de la guerre, le pacifisme, il exprime sa radicalité contre les institutions, il parle de la modernité, peut-être que Miller, on dira tout à l'heure un mot par rapport aux États-Unis, où il dit la modernité, ça va être quelque chose d'épouvantable, il aborde un ensemble de thèmes, et en particulier la religion, parce que ça, c'est vrai que tout à l'heure, on dit que c'est un élément fort, il en voit quand même par rapport au texte religieux, à la religion, au vitriol, je dirais, il essaie de les descendre en flammes. Et donc, moi, je pense qu'il faut quand même dire, quand il est infréquentable, pour certains, c'est vrai que d'écrire ces thèmes-là, les thèmes contenus dans le Voyage au bout de la nuit, sont des thèmes anarchistes, enfin pour moi.
Et je crois que tu oublies dans ce que tu viens de dire la critique féroce du travail.
Ah bah voilà, non mais là on est en plein dedans dans cette émission. Ah oui.
Quand on le met à compter les puces dans une usine à la chaîne dans une usine qui ressemble à celle de Ford. Alors.
Et sur la durée du travail.
Ah oui, bah ça c'est autre chose, oui, pour les 35 heures.
Oh ben les 30 heures, c'est déjà bien trop pénible. Quand il parle des capitalistes, c'est les pompeurs à bénéfices. Je trouvais que c'était une très belle
expression. C'est dans Les Beaux Draps qui dit « Moi, je suis médecin, si on me pose la question de savoir quelle est la durée maximum de quelqu'un devant une machine, je réponds 35 heures. » Et lorsque Aubry...
Martine Aubry qui a fait, rappelez ça.
Le Figaro, un article de Jean Descartes qui lui disait, il ne faut pas oublier de dire où vous avez pris cette idée-là, c'est dans Les Beaux Draps de...
Elle n'osait pas, Martine Aubry, on comprend.
Elle l'avait lu.
Elle n'a pas lu, sûrement.
Alors, ceci dit, pour revenir sur l'anarchie de Céline, moi, je...
Sur cette thèmes.
Je corrigerai, parce que c'est une anarchie, je dirais...
On va en parler, oui.
Thématique, mais l'individu, lui, ne l'était pas. C'est-à-dire que, en tant qu'individu, c'était un personnage, finalement, extrêmement, enfin, très compliqué, donc très conventionnel par certains côtés, et je dirais plus libertaire que qu'anarchiste. Parce que c'est quelqu'un, par exemple, on a beaucoup reproché à Céline sa radinerie, bon, son goût de l'argent, etc. En fait, il n'était pas vraiment radin parce que, par exemple, il se payait des montres en platine en disant les gens croient que c'est de l'acier, ce sont des cons. Voilà. En fait, oui. son goût de l'argent était lié à l'idée pour lui que la liberté se payait et que donc, plus on a d'argent, plus on a de liberté. Et cette espèce de volonté d'avoir toujours plus, elle est liée d'abord à ça, c'est-à-dire plus je serai indépendant des autres, plus je serai libre, donc il me faut de l'argent. Et en même temps, il réclamait toujours plus d'argent parce qu'il se considérait comme le plus grand écrivain français et que donc il jugeait nécessaire d'être payé en tant que tel, donc d'être payé plus que tous les autres.
Alors je vais dire, pour les thèmes anarchistes, alors un en particulier dont on a pas cité tout à l'heure par rapport à un pamphlet, le premier, Mea culpa. Alors je pense qu'il faut essayer d'expliquer parce que Mea culpa, c'est le voyage, c'est un thème chez les soviets, c'est en 1936. Voilà. Donc, et de dire ce pamphlet d'une violence contre le stalinisme et en plus contre ce qui se passe en Union soviétique. Et donc, c'est quelques pages, c'est pas très long, c'est assez court.
Ça fait 14 pages.
Voilà. Mais je crois que ça, dans l'époque, pour l'époque, ça a été extrêmement mal apprécié.
Et c'est d'ailleurs ce qui marque sa rupture avec ce qu'on appellera la gauche classique.
Oui.
C'est-à-dire.
Oui, il a pas dû être apprécié par les communistes. Pas plus que Gide ou Israti, qui aussi avait fait des critiques considérables.
Voilà. Mais la critique de Gide, enfin, c'est d'ailleurs son style, est infiniment plus feutré.
Ah oui,
c'est
pas
une critique directe, c'est ce n'est pas ce que ça devrait être, etc.
Oui.
Tandis que lorsque Céline revient de Saint-Pétersbourg, il dit que c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que jamais l'homme n'a été aussi méprisé, aussi pressurisé par un système qui, justement, prétend mettre l'égalité en avant et que on a des hiérarches du Parti communiste qui vivent formidablement bien pendant que le peuple crève de faim. Et c'est quelqu'un qui, non seulement n'est pas dupe, mais qui, alors qu'à l'époque, c'est quand même assez dangereux, dire.
Ah bah ça, oui, justement.
Il faut savoir que pendant des années, entre le voyage, pendant les 4 ans de la publication du voyage et ensuite la publication de Mea culpa, quelqu'un comme Aragon va passer son temps à essayer d'attirer Céline si ce n'est pas au Parti communiste, mais au moins en tant que ce qu'on appelait à l'époque en faire un compagnon de route. Et Aragon sait que Céline est antisémite. Et dans un article de Marianne, il écrit « Il faut absolument que vous nous rejoigniez, malgré vos petites idées sur les Juifs. » Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'à l'époque, finalement, être antisémite, ça gêne même pas les communistes.
Et puis, rappelez qu'il y a ça, enfin moi j'ai relu Bagatelle pour un massacre, qui parle du guide, de son guide Nathalie, justement par rapport à la Russie, enfin quand il se balade en Union soviétique, le voyage qu'il fait à Leningrad, enfin il y a des passages évidemment très révélateurs, et il emploie, pour ça, pour les auditeurs éventuellement, il faut quand même le signaler, vous pouvez trouver Mea culpa sur Internet, très facilement, et je dire que t'as un pamphlet de virulence et d'une lucidité par rapport au stalinisme et par rapport à ceux qui ont voulu faire le bonheur des individus et qui ont fait justement le malheur, il le dit, par rapport à un régime policier, le régime de caserne, ultra-autoritaire, que la nomenclature, il la dénonce avec des hiérarques et tout ça, et il remarque aussi une très grande misère qui n'est absolument pas évoquée et complètement planquée. Et je pense que ça, c'est mon point de vue, il l'a payé relativement cher d'avoir voulu s'exprimer, puisqu'on reviendra tout à l'heure dans un pamphlet, notre pamphlet sur le communisme Labiche. Si tu veux en dire quelques mots, voilà.
Le communiste Labiche, c'est qu'il invente une forme de communisme qui est complètement absurde et utopique. C'est-à-dire qu'il donne un certain nombre de principes. Alors le premier des principes, c'est de dire que l'écart des salaires doit être de 1 à 3. On ne peut pas avoir plus. On part du principe qu'il y a un salaire minimum, si je me souviens bien, qui est de 1000 francs de l'époque. et que au maximum, donc, on peut gagner 3000 francs. Que chaque famille se voit attribuer un pavillon avec un terrain de 500 mètres carrés, et que le pavillon est inaliénable. On peut pas le vendre, on peut pas le retirer, voilà. Que chaque enfant reçoit une allocation de. C'est-à-dire, il imagine une société où ce qu'on appellerait les différences de classe vont être abolies. Bon, voilà, c'est.
Il y a une moquerie dedans, puisque l'appeler la biche, je pense
alors,
qu'il y a.
L'appeler la biche parce que c'était. C'était petitement français.
Oui, c'est pas.
Et il dit à propos de ce communisme la biche, voyons, je cite là, il dit voyons petit, voyons médiocre, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper.
Et donc, on voit l'humour. Et alors, moi, je ne sais pas, juste sur ce thème-là, en même temps, dans Mea culpa, la dénonciation de dire d'une idéologie qui conduit à enfermer les gens.
L'aspect matérialiste, justement, j'ai sous les yeux un morceau de Mea culpa. Le programme du communisme en Union soviétique, malgré les dénégations, entièrement matérialiste. Revendication d'une brute à l'usage des brutes. Bouffée. Regardez la gueule du gros Marx, bouffi. Et encore, s'il bouffait, mais c'est tout le contraire qui se passe. Le peuple est roi, le roi la saute.
Oui, et voilà. Alors, juste ça par rapport. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'humour et beaucoup de lucidité. Il le paye, à mon avis, assez cher, puisque faut voir l'affluence. Tu as cité tout à l'heure Aragon. Moi, je sais pas, juste comme ça, rapidement, dans les Beaudras, ou quand il parle du communiste Labiche, je pense qu'il y a une moquerie, quand même. Parce que sur ses prétentions, on disait tout à l'heure, à organiser, à faire des propositions politiques d'organisation de la société, je pense que là, il est un peu à côté des choses et que c'est une.
Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux deux pamphlets précédents, donc Bagatelle pour un massacre à l'école des cadavres, Les Beaudras peut être considéré comme le seul livre politique de Céline.
Oui.
En effet, il part d'un constat, c'est-à-dire que la France a subi la plus grave défaite de son histoire, que le pays a touché le fond. Alors, il faut savoir qu'il déteste Pétain et le régime de Vichy, qu'il considère comme un régime de petits vieillards qui sont pipi. Enfin, bon, il déteste ça. Et donc, il dit, voilà, c'est une occasion unique. La société est complètement chamboulée. Les histoires de retour à la Terre, c'est des absurdités. Mm. Comment est-ce qu'on peut imaginer la société nouvelle? Bon. Alors, évidemment, beaucoup de gens disent, Les Beaudras, c'est un livre qui n'est pas antisémite, c'est absolument faux. Ça, c'est les gens qui veulent dédouaner Céline. Ça reste un livre antisémite, et je l'ai dit tout à l'heure, enfin, quand on discutait, c'est la tâche indélébile sur Céline, parce que il publie ça en 41, et que tous les arguments, puisque la guerre a eu lieu, donc tous les arguments pacifistes qu'on pourrait avancer pour justifier les deux précédents pamphlets tombent. Donc c'est vraiment une tâche, il n'y a pas de discussion possible, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible qu'il ait écrit ce livre. Bon, en même temps, dans le contenu de ce livre-là, il y a donc ce qui forme, je dirais, une pensée politique, il y a le constat d'une situation, et il y a les arguments pour transformer cette situation. Donc il imagine une société française, qui est une société évidemment utopique, dans laquelle on ne travaillerait que 35 heures, où les moyens de production seraient partagés, où les revenus seraient encadrés dans une fourchette qui est très réduite, puisque c'est de 1 à 3, et où surtout, il insiste de façon très forte sur ce que, et c'est peut-être ça le plus intéressant, sur ce que devrait être l'éducation. Comment est-ce qu'on doit éduquer les enfants pour en faire, non pas des gens qui savent forcément écrire et compter, mais des gens qui sont capables de vivre pleinement leurs idées, leurs aspirations poétiques, enfin, etc.
À sujet.
Et ça rejoint tout à fait la position de l'anarchiste, qui ne s'est jamais dit anarchiste, Stirner, qui disait « il faut que l'individu soit créateur », donc il insistait là-dessus, et non pas simplement
créature.
Et par exemple, dans les Beaudras, il dit que l'école telle qu'elle existait détruit toutes les aspirations artistiques de l'enfant pour le couler dans un moule, et que tout au contraire, il faut revenir à ces aspirations artistiques.
Alors justement, le voyage s'est évoqué par rapport à sa biographie quand il se trouve à Rambouillet. Et là, il a approché la ruche. On en parle de Sébastien Faure, hein, et je pense que là, l'influence...
Il a approché la ruche de Sébastien Faure. Il a travaillé à un moment dans une revue qui s'appelait Eureka, à laquelle participaient certains anarchistes. Et il s'est toujours, lui, revendiqué d'une certaine forme d'anarchisme. Mais je pense que c'était un anarchisme qui n'était pas du tout... politique.
Ah, c'était pas un militant, c'est sûr.
Non, mais même pas militant, au sens que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas les textes, je pense.
Ah oui.
Qui n'avait rien lu.
Oui,
de vue d'anarchie. C'était une espèce de position sur, je dirais, les poncifs qui règnent autour de l'anarchie.
Oui.
Voilà. Mais lui se revendiquait comme tel. On pourrait dire, enfin, pour simplifier, je crois que ça n'existe pas, vous savez, il y a un grand. Comment est-ce qu'on pourrait ça ? Une grande définition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent d'anarchistes de droite.
Moi, je l'évoque de gauche, enfin tout ça, oui. Non, voilà.
On l'est pas, mais anarchiste de gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et beaucoup de gens qui se prétendaient être anarchistes de droite, je pense par exemple à un Audiard.
Beaucoup de tous les libertariens américains qui sont d'extrême droite.
Voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cet anarchisme de Céline.
Alors, on avait tout dit tout à l'heure. Alors justement, on va essayer de peut-être de passer l'extrait de Mort à crédit, certificat d'études. Si tu veux, je pense que c'est un peu voir le style. Et puis en plus de ça, c'est formidable, je trouve, parce que c'est dit par Arletty. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Alors, vous êtes sur Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, numéro du studio 01 43
71
89 40.
Avec Arletty et Louis Ferdinand.
Le certificat d'études. Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Le moment était solennel, elle pensait à Caroline, ça la faisait encore pleurnicher. Tout autour du palais royal, elle m'a fait réciter mes fables et la liste des départements. À 8 heures juste, devant la grille, nous étions là qu'on nous inscrive. Il y avait du soin dans les habits, tous les mots m'étaient décrottés, mais énervés au possible, les mères aussi. Il y a eu d'abord la dictée, ensuite des problèmes. C'était pas très difficile, je me souviens, il n'y avait qu'à copier. On faisait, nous, partie des refusés de l'automne, de la session précédente. Pour presque tous, c'était tragique, qui voulaient devenir apprentis. À l'oral, je suis tombée très bien sur un bonhomme tout corpulent qui avait des verrues plein son nez. Portait une grande lavalière, un peu dans le genre de l'oncle Arthur. C'était pourtant pas un artiste. Pharmacien qu'il avait été rue Gombouste. Il y a des personnes qu'il connaissait. Il m'a posé 2 questions à propos des plantes. Ça, je ne savais pas du tout. Il s'est répondu à lui-même. J'étais bien confus. Alors, il m'a demandé la distance entre le soleil et la lune... et puis la terre et l'autre côté. Je n'osais pas trop m'avancer. Il a fallu qu'il me repêche. Sur la question des saisons, je savais un petit peu mieux. Je marmonnais des choses vagues. Ouais, il n'était pas exigeant. Il finissait tout à ma place. Alors il m'a posé la question sur ce que j'allais faire dans l'avenir, si j'avais un certificat. Je vais entrer, j'ai dit lâchement, dans le commerce. C'est dur le commerce, mon petit, qui m'a répondu. Vous pourriez peut-être encore attendre. Peut-être encore une autre année. Il ne devait pas me trouver costaud. Du coup, j'ai cru que j'étais collé. Je pensais au retour à la maison, au drame que j'allais déclencher. Je sentais monter un vertige. Je croyais que j'allais défaillir tellement que je me sentais battre. Je me suis raccroché. Le vieux, il m'a vu pâlir. Mais non, mon petit, tu me fais rassurer, vous donc. Tout ça n'a pas d'importance. Moi, je vais vous recevoir. Vous y entrerez dans la vie, puisque vous y tenez tant que ça. J'ai été me rasseoir sur le banc à distance, en face du mur. J'étais quand même bouleversée. Je me demandais si c'était pas un mensonge commode pour se débarrasser. Ma mère était devant l'église sur la petite place, elle attendait les résultats. C'était pas fini pour tout le monde. Il restait des mômes. Je les voyais les autres à présent. Ils bafouillaient leurs confidences par-dessus le tapis. La carte de France, les continents. Depuis qu'il m'avait dit ces mots à propos d'entrer dans la vie, je les regardais, les petits compagnons, comme si jamais je les avais vus. L'angoisse d'être reçu les coinçait tous contre la table. Ils se tortillaient comme dans un piège. C'était ça, rentrer dans la vie. Ils essayaient dans l'instant même de s'arrêter d'être que des mômes. Ils faisaient des efforts de figure pour déjà prendre des allures d'hommes. On se ressemblait tous à peu près comme ça, vêtus, en tablier. C'était des enfants comme moi, de petits commerçants du centre, des façonniers, des bazars. Ils étaient tous assez chétifs. Ils s'écarquillaient les mirettes, ils en haletaient comme des petits kleps dans l'effort de répondre aux vieux. Les parents, le long de la muraille, surveillaient la procédure. Ils jetaient des regards vers leurs moutards, des coups de chasse carabinés, des ondes à leur couper la chic. Les gosses, ils se gouraient à tout coup, ils se ratatinaient davantage. Le vieux, il était inlassable. Il répondait pour tout le monde. C'était la session des crétins. Les mères s'empourpraient à mesure. Elles menaçaient de mille raclées. Ça sentait le massacre dans la pioule. Enfin, tous les mômes y ont passé. Il restait plus que le palmarès. C'était le plus beau du miracle. Tout le monde était reçu, finalement. L'inspecteur d'académie l'a proclamé sur l'estrade. Il avait un bide à chaîne, une grosse breloque qui sautillait entre chaque phrase. Il bafouillait un petit peu. Il s'est gouré dans tous les noms. Ça n'avait aucune importance. Il a profité de l'occasion pour prononcer quelques paroles tout à fait aimables et très cordiales, très encourageantes. Il nous a bien assuré que si on se conduisait plus tard dans la vie, dans l'existence, d'une façon aussi valeureuse, on pouvait être bien tranquille qu'on serait sûrement récompensé. J'avais pissé dans ma culotte et recaqué énormément. J'avais du mal à me bouger. J'étais pas seule. Tous les enfants allaient de travers. Ma mère a bien senti l'odeur en même temps qu'elle m'étreignait. J'étais tellement infectieux qu'il a fallu qu'on se dépêche. On n'a pas pu dire au revoir aux petits copains. Les études étaient terminées. Pour rentrer encore plus vite, on a pris un fiacre. On a fait un courant d'air. C'était des drôles de carreaux qui branlaient tout le long du chemin. Elle a reparlé de Caroline, comme elle aurait été heureuse de devoir réussir. Ah, si elle a une double vue. Mon père attendait au premier étage, tout feu éteint, les résultats. Il avait rentré tout seul l'étalage, les lustres, tellement qu'il était frémissant. Auguste, il est reçu. Tu m'entends? Il est reçu. Il a passé facilement. Il m'a accueilli à bras ouverts. Il a rallumé pour me voir. Il me regardait affectueusement. Il était ému au possible. Toute sa moustache tremblotait. Ça, c'est bien, mon petit. Tu nous as donné bien du mal. À présent, je te félicite. Tu vas entrer dans la vie. L'avenir est à toi. Si tu sais prendre le bon exemple. Suivre le droit chemin. Travailler, peiner. Je lui ai demandé bien pardon d'avoir été toujours méchant. Je l'ai embrassé de bon cœur. Seulement j'empestais si fort qu'il s'est mis à renifler. Oh, comment qu'il m'a repoussé. Oh, le cochon, le petit sagouin. Mais il est tout rempli de merde. Oh, Clémence, Clémence, emmène-le là-haut, je t'en prie. Je vais encore me mettre en colère, il est écœurant. Ce fut la fin des effusions. On m'a nettoyé tant et plus, on m'a enduit d'eau de Cologne. Le lendemain, on s'est mis en quête d'une maison réellement sérieuse pour que je commence dans le commerce. Une place même un peu sévère où on ne me laisserait rien passer. Pour bien apprendre, il faut que ça barde. Telle était l'opinion d'Édouard. Il avait 20 ans de référence. Tout le monde était de son avis.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Alors, vous avez entendu Arletty qui nous lisait un texte, je crois que c'est dans Mort à Crédit, dans lequel l'enfant Louis Ferdinand raconte la façon dont se sont déroulées les épreuves du certificat d'études. Eh bien, je pense qu'il y a peut-être pas mal de jeunes aujourd'hui qui pourraient, que ce soit le certificat ou autre chose, en dire presque autant, mais pas de la même façon.
Alors, Émile Bramy, on va revenir en même temps à l'ouvrage, à le citer pour les auditeurs. Donc, tu as publié une biographie, Céline, avec en sous-titre « Je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple », édition écriture. Et alors, c'est une biographie à rebours du temps. Alors justement, peut-être pour la dernière partie de cette émission, on va évoquer les 10, peut-être si tu le veux, enfin les 10 dernières années, et pourquoi en même temps de Louis-Ferdinand Céline, la période à Meudon, et autour du DVD, hein, le rappeler qui vient d'être publié, Céline Vivant, aux éditions Montparnasse. Enfin, j'ai dit un mot pour les éditions Montparnasse, et je vous les recommande, parce que dedans, il y a quelque chose qui a été publié par les éditions Montparnasse, l'abécédaire de Gilles Deleuze, je le recommande, et quelque chose qui va sortir bientôt autour de Jacques Derrida. Alors, revenir à ce double DVD, il y a des photos, alors dont la présentation du DVD, mais à l'intérieur, justement, il y a des entretiens. Alors, il y a un entretien, faut dire, il se trouve à Meudon les 10 dernières années à peu près de sa vie. Et puis, il y a la télévision, le début de la télévision. Alors, on va pas dire Céline ce qu'il pense de la télé. Il avait tout compris. Enfin, bon, par rapport à la télé, réalité, poubelle, publicité et sur la publicité, évidemment. Mais de revenir sur des entretiens où, un, il se déplace, il va dans les studios à l'époque d'une émission culte. Lecture pour tous, c'était en 1957, hein, Lecture pour tous. J'ai un petit souvenir, Jacques, hein, je veux dire, raconte pas ta vie, sur cette émission directe, je me souviens de l'avoir vue, ça m'avait marqué, voilà. Hein, donc, simplement, je rappelle quand même un autre événement, qui avait été marquant, 56, c'était la télévision qui montrait les chars, puisqu'on a parlé tout à l'heure de mea culpa, les chars d'Union soviétique qui rentraient à Budapest, oui, oui. Hein, écrasement de Budapest. Alors voilà, l'élément, alors donc, il y a Lecture pour tous, et puis il y a aussi des télévisions, tu vas en parler peut-être si tu veux, de qui se déplacent à Meudon, qui filment à Meudon, et on disait tout à l'heure, alors par rapport à cette période-là, où Céline, moi je trouvais qu'il était, on voit au travers de ses films, dans une très grande souffrance, on parle de clochardisation, de la manière dont il est vêtu, habillé. Alors moi je ne sais pas, je dirais plutôt en pâtre, d'après ce que j'ai vu, au milieu d'animaux, puisque on disait celui qui déteste les enfants ne peut pas être entièrement mauvais, mais lui, en tout cas, celui qui aime les animaux comme il les aimait, ne peut pas être totalement méchant. Alors, il y a des chiens, il y a des chats, et surtout, il y a des perroquets. Et il y a un perroquet qui est très important dans un des extraits du film. Et voilà, de parler de ça. Et en même temps, au cours de ces entretiens, on disait tout à l'heure, pour rire un peu, c'est que Céline, il se fout de la gueule peut-être des gens qui viennent l'interroger. En particulier, à un moment, il dit la littérature, faut être très prétentieux, pourquoi vouloir écrire et tout ça. Et moi, au début, j'ai écrit simplement, c'était simplement parce que je fallait que je trouve un peu d'argent pour pouvoir payer mon terme. Hein. Rappeler à l'époque ce que ça voulait dire le terme, si tu veux.
Bah, c'est le loyer. Voilà. Il prétendra toute sa vie avoir écrit pour pouvoir s'acheter un petit appartement et ne plus avoir à payer de loyer. En fait, dans le DVD, il y a deux disques. On a donc réuni sur le premier... Tout ce qui existe comme film de Céline, sauf à ce qu'apparaisse un jour autre chose, mais pour l'instant, je n'y crois pas. Et donc, on a trois films. Un qui a été fait en 1957 dans les studios de la télévision. Et Céline répond aux questions de Pierre Dumayet à propos de son dernier livre, D'un château l'autre.
Oui.
Il y a un entretien avec Louis Powels qui devait être diffusé en 59 et qui ne l'a pas été parce qu'il y a eu une levée de bouclier qui a été, je crois, diffusé pour la première fois en 67 ou 8. Et il y a un entretien avec Parrino, André Parrino, qui était inédit jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais été passé. On en a juste pris 2 ou 3 minutes pour faire des films sur Céline. Et dans le second DVD, on a alors 2 heures de la première émission qui a été faite sur Céline par Michel Pollack, qui a beaucoup vieilli du point de vue de la forme, parce que c'est en noir et blanc, ça a été tourné en 69, donc tout le monde, les cendriers sont pleins, il y a des rouflaquettes, des grands cheveux très longs, enfin bon, ça a vieilli de ce point de vue-là, mais on a choisi ce document-là parce que on peut voir encore des gens qui vont mourir très peu de temps après. Je pense tout particulièrement à un des grands amis de Céline, le peintre Jean Paul, donc là, qui est filmé en 69 et qui va mourir 3 ans après, en 1972, voilà, et qui donne son seul témoignage sur Céline. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vont disparaître. Alors, il y a eu d'autres films qui ont été faits sur Céline, mais il a fallu choisir, et on a fait le choix de prendre le plus ancien.
Voilà. Alors, rappelez justement peut-être l'émotion dedans de ces entretiens, de le voir donc à Meudon. Vous verrez ça à partir, je sais pas, comment les possibilités. Faut le dire aussi, il y a des médiathèques et des bibliothèques publiques maintenant, et la possibilité, on peut trouver ces documents les gens qui n'ont pas trop de sous.
Il a été acheté par beaucoup de bibliothèques et de médiathèques.
Ouais.
Alors si on n'a pas les moyens, il faut savoir aussi que on peut voir ces films sur Internet. Alors évidemment, dans des conditions infiniment moins bonnes, parce que là, l'image a été nettoyée, enfin, etc. Mais par exemple, sur YouTube, les 3 films existent. Sur Dailymotion aussi, on peut les voir.
Alors, juste dans l'entretien, le souvenir pour lecture pour tous, il parle de du Grand Nord, et puis il a l'air de dire, donc c'est ce que j'ai fait simplement, il parle du raffinement, je suis raffiné, et puis aussi la sensibilité, comme une chienne de traîneau, qui dit, là-bas, à 200 mètres, il y a une crevasse, tout le monde va aller dedans, et j'ai simplement essayé d'avertir, de dire quelque chose sur ce danger-là, et c'est tout ce qu'on me reproche.
En fait, c'est une métaphore sur les pamphlets, donc lui était une chienne, il dit que sur les traîneaux, on a toujours la chienne la plus sensible en premier parce qu'elle est capable de voir ce que les autres chiens ne voient pas. Et donc lui, en gros, il a vu ce que les autres prétendent, en tout cas avoir vu ce que les autres ne voyaient pas, et d'avoir voulu tirer un signal d'alarme à propos de la guerre. D'ailleurs, il ajoute à la fin de l'entretien si dans les élevages on se met à tuer les animaux raffinés, où va-t-on ?
Oui, voilà.
Il se considère comme et très longtemps, Céline s'est considéré comme une sorte de voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de deviner. Et vous savez, ça n'est pas faux parce que par exemple, il y a dans Bagatelle des prémonitions extraordinaires. Par exemple, ça c'est pas dans Bagatelle, mais en 1957, je crois, il répond à des questions de Jacques Chancel. Il parle de la télé et il dit, alors la télé, à l'époque, il y a 30 000 postes, c'est-à-dire c'est rien du tout. Et il dit, 1, ça va tuer le cinéma. 2, c'est une excellente nounou pour les enfants. Les parents posent les enfants devant et ils s'en occupent plus. Voilà. C'est-à-dire que dans Bagatelle, il y a un truc absolument extraordinaire. Il parle de la manière dont on fabrique une vedette. Et il dit, ce qu'il faut prendre, c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt.
Voilà, parce que là, on est dans la scellée.
Vous pouvez le manipuler comme vous voudrez. Voilà. Et il termine ce texte d'une page en disant, et vraiment, on a l'impression d'être assis dans la télé-réalité qu'on voit aujourd'hui, plus un mur est blanc, mieux il prend la peinture. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que on a aujourd'hui à la télévision des murs blancs, des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien et qui n'ont pas.
Oui, oui, et ça ressemble à la formule du patron de TF1, Le Lay, qui dit il faut que le cerveau soit vide pour mieux accepter la publicité de Coca-Cola.
Et il dit d'ailleurs, il dit comment le plus rebutant crétin, la plus vilaine donzelle peut avoir plus de succès que Jésus-Christ. Voilà. Et c'est pas faux.
C'est pas faux. Alors un sujet juste rapide comme ça, je vous signale une émission samedi prochain, ça sera à 10h, la télé enchaînée, toujours plus fort dans la vulgarité, et donc on abordera le bouvard épécuchet pullule, l'ignare se pavane et la frime triomphe. Alors voilà, on est en plein dans prolongation avec Céline, ce qu'il disait sur la télévision et puis aussi sur la publicité. Alors un élément aussi pour toi, Émile Bramy, je voulais parler, tu parlais de Jean Paul tout à l'heure, alors je crois que pour Céline, c'est important la peinture, il fait référence aussi à Vlaminck, puisque dire il y a une exposition en ce moment Vlaminck, c'est d'actualité, hein. Là aussi le fauve Vlaminck, et toi, tu as dit aussi que l'intérêt que tu as pour la peinture et que tu n'as pas réussi.
Voilà. Ben moi, je suis un peintre raté, voilà. Donc, pendant des années, j'ai rêvé d'être peintre, ouais. Je ne le suis pas malheureusement, donc... je me suis, entre guillemets, reconverti dans la littérature et je trouve qu'il y a quelque chose d'ironique dans ce qui m'arrive, au sens où, bon, je réussis plus ou moins dans la littérature, alors que très honnêtement, je m'en fous un peu et que j'ai jamais été fichu de faire une belle toile. Voilà.
Alors pour la peinture, eh bien je vous conseille, hein, là, puisqu'on a fait plusieurs émissions, une en particulier avec Laurent Danchin, autour de l'art brut, donc ton ouvrage, ton bouquin que tu as publié, écrit, qui s'appelle Art Brut.
J'ai publié en 2001 plus exactement un livre qui s'appelle Art Brut et qui est effectivement l'histoire un peu compliquée d'un artiste qui se retrouve, malgré lui, catalogué artiste brut. C'est quelqu'un qui en fait est un vrai peintre et puis à la suite de diverses péripéties, il est enfermé dans un asile psychiatrique. Ouais. Et dans cet asile psychiatrique, on le refait peindre, comme on l'a fait beaucoup avec les fous dans les années 30-60, on va dire. Et donc, il ressurgit sous une autre forme. C'est un peintre classique et il ressurgit sous la forme d'artiste brut. Et on va dire que c'est un peu une métaphore de ma destinée.
Et ça n'est pas une histoire d'un peintre suisse, je ne sais pas si c'est sous terre, qui lui aussi avait été enfermé dans un asile.
Ah, il y a beaucoup de... En fait, la moitié des peintres qu'on peut voir... dans le musée d'art brut qui existe à Lausanne, la moitié de ces gens-là étaient des gens qui étaient enfermés dans des asiles psychiatriques parce qu'on a fait beaucoup de peintres à une certaine époque.
Ouais. Oui, mais c'était pas forcément des peintres de, j'allais dire, de...
Ah non, c'était des gens
de profession,
qui ont... Non, c'était des gens qui ont découvert la peinture. Et d'ailleurs, la définition de Dubuffet de l'art brut, c'est des gens qui n'ont aucun rapport avec le monde artistique et qui emploient des moyens et des matériaux qui ne sont pas les moyens et les matériaux qu'emploient habituellement les artistes classiques. Donc c'est des gens qui sont... les Américains parlent de peintres outsiders, c'est-à-dire en dehors.
Voilà, donc on le rappelle hein, aux auditeurs, plusieurs émissions autour de ces thèmes-là, l'art brut en particulier, avec Laurent Danchin, un petit ouvrage qui a été publié chez Gallimard, hein, justement, qui faisait le point, avec très intéressant, autour de l'art brut, qui s'appelle simplement l'art brut. Alors tes ouvrages, il y a aussi Histoire de la poupée, peut-être un ami qui s'appelle Nedjar, je ne sais pas.
Je suis très ami avec Michel Nedjar, puisque... il y a 25 ans de ça aujourd'hui, je suis allé visiter le musée d'art brut de Lausanne et je suis pas du tout collectionneur. C'est-à-dire que moi, je pense que les peintures doivent être dans les musées et vues par tout le monde et pas enfermées dans la maison de quelqu'un. Et c'est la seule fois de ma vie où je suis ressorti d'un endroit, d'un musée, en me disant « il me faut absolument, chez moi, quelque chose de ce type-là ». Et donc, je suis allé voir Michel Nedjar, qui à l'époque n'était pas du tout connu. Et je vous conseille très fortement d'inviter Michel Nedjar parce que c'est un homme hors du commun, absolument extraordinaire.
C'est un peintre ?
C'est un peintre, un graphiste.
Un artiste singulier.
Singulier, pas brut, parce que c'est quelqu'un qui a une très grande intelligence de ce qu'il fait, une très grande connaissance de la peinture, de la littérature et tout. C'est un homme absolument passionnant et c'est sans doute un des plus grands artistes français vivant actuellement.
Ben voilà.
Je m'honore d'être son ami.
Mais alors, lui as demandé une œuvre ?
Oui, j'ai acheté chez lui.
Ah oui, d'accord, tu as commencé.
C'était pas art brut, ça n'avait pas de rapport avec Dubuffet et Lausanne.
Il a été découvert par Dubuffet, mais c'est quelqu'un qui a commencé par être ce qu'on peut appeler un artiste brut et qui a eu une espèce d'évolution vers une vraie maîtrise de ce qu'il fait.
Ce qui m'avait frappé la fois où j'étais il y a fort longtemps à Lausanne, c'était le côté... acharné dans la répétition de motifs constamment identiques dans beaucoup de...
C'est souvent le
beaucoup,
cas.
Beaucoup de,
c'est souvent le cas. Mais, encore une fois, invité Nedjar.
Voilà, Émile Bramy, donc, c'est terminé.
Émission spéciale Céline.
Alors, justement, juste recite quand même, Jacques, c'est important pour les auditeurs, hein, l'ouvrage est, Céline, Émile Bramy aux éditions Écriture, et puis aussi, donc, Céline Vivant aux éditions Montparnasse, hein, deux DVD. Donc, voilà, autour de Ferdinand Céline. Et puis, évidemment, le mieux, vous avez des tas de textes sur Internet. Hein, je dis, on a parlé de Mea Culpa, vous pouvez le voir. Et puis aussi, évidemment, de vous replonger, si vous le souhaitez, hein, comme tu as dit tout à l'heure au début, quelle chance, il n'a jamais lu Céline, alors voilà, c'est pour des auditeurs qui ne l'auraient pas lu, eh bien oui, de, oui, d'aller le découvrir.
Céline, voilà. Indispensable.
Eh bien, chronique hebdo, fini, c'est terminé, à la semaine prochaine, salut.